les relations entre avocats reposent essentiellement sur le règlement intérieur national de la profession. On a des usages qui sont relativement codifiés.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNJA. La confraternité fait partie des principes essentiels de la profession d'avocat. Pour autant, il n'est pas toujours facile de la respecter et de la faire respecter dans ses rapports quotidiens avec ses confrères. Quelles sont les règles à suivre pour entretenir de bonnes relations entre avocats? C'est ce que nous allons voir avec Adrien Choimier, ancien président de l'UJA de Saint-Malo-Dinan et membre de la FNUJA. Adrien, bonjour.
Bonjour Laurence.
Par quel texte les relations entre avocats sont-elles régies?
Comme beaucoup de choses dans la profession, les relations entre avocats reposent essentiellement sur le règlement intérieur national de la profession, dont les modifications sont votées par le CNB avant d'être publiées par décret. Le RIN a permis d'unifier les règles applicables aux avocats puisqu'il supplante l'ensemble des règlements intérieurs des barreaux, qui, s'ils subsistent encore aujourd'hui, ne sont plus forcément mis à jour régulièrement et peuvent dater un peu. On m'a ainsi parlé d'un barreau où le règlement intérieur local faisait encore référence à l'élection du dauphin, institution qui n'existe plus depuis plus d'une dizaine d'années, remplacée aujourd'hui par un bâtonnier élu.
Quels sont les usages qu'un jeune avocat doit suivre quand il s'inscrit dans un barreau?
Lorsqu'un avocat, qu'il soit jeune ou non au final, demande son inscription au sein d'un barreau, il doit justifier notamment de son diplôme ou équivalent, de sa probité avec un casier judiciaire vierge de toute condamnation incompatible avec l'exercice de la profession, de deux attestations de moralité établies par des personnalités du monde judiciaire, et d'un mode d'exercice, contrat de collaboration, justificatif d'installation. Il est ensuite généralement reçu par un membre du Conseil de l'Ordre, désigné pour rédiger un rapport sur sa demande d'inscription. La demande est ensuite soumise au Conseil de l'Ordre qui vote l'admission au tableau. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. La décision du Conseil de l'Ordre ne se prend donc pas à la tête du client, mais bien sur le respect des textes par l'impétrant. Ce n'est qu'une fois inscrit au tableau que le nouveau confrère doit respecter certains usages, le plus important étant de se présenter au confrère. Si dans un petit barreau il est encore envisageable pour un avocat nouvellement inscrit de prendre attache avec l'ensemble des cabinets, il est bien entendu impossible de mettre cet usage en pratique dans les plus grands barreaux et notamment à Paris avec ses plus de 32 000 avocats. On n'imagine pas un nouveau confrère faire le tour des 32 000 avocats de Paris pour dire « bonjour, c'est moi, je suis nouveau ». Même dans un petit barreau comme Saint-Malo-Dinan où j'exerce, il est finalement recommandé aux confrères d'appeler uniquement les membres du Conseil de l'Ordre ainsi que quelques confrères sélectionnés qui ont les usages chevillés au corps afin de convenir d'un rendez-vous pour pouvoir se présenter à leur cabinet. Dans les faits, la plupart des confrères dispensent le nouvel avocat d'une visite protocolaire, se contentant d'une rapide conversation téléphonique. Il est par contre fortement recommandé de prendre le temps de se présenter, au besoin plusieurs fois, certains oublient, les premiers mois de son exercice, lorsqu'on croise d'autres avocats en audience ou dans la salle des avocats. Cet usage, peut-être un peu désuet pour certains, permet à mon sens d'instaurer un rapport confraternel entre les avocats, puisque maître un tel n'est pas juste un adversaire dans un dossier, mais un confrère que l'on a rencontré et avec lequel on a pu échanger. Il ne faut en effet pas oublier que si l'on est concurrent sur un même marché, on en reste tout de même confrère.
Et y a-t-il des règles particulières à respecter quand un avocat se rend dans un barreau extérieur?
Tout à fait, Laurence. Le règlement international précise dans son article 1 bis, donc c'est même pas un usage, c'est une règle, une obligation déontologique, que l'avocat plaidant à l'extérieur doit se présenter au président, au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse. Se présenter au magistrat et à son adversaire en arrivant dans la salle d'audience se fait toujours, ne serait-ce que pour faciliter l'organisation des plaidoiries. Il est toutefois devenu beaucoup plus rare, à ma connaissance, de se présenter au bâtonnier. Cette règle déontologique est d'autant plus difficile à respecter qu'un bâtonnier est rarement à son ordre, en train d'attendre les confrères, et parfois encore plus rarement à son cabinet. Il arrive dès lors que la présentation au bâtonnier soit réalisée par le dépôt d'une carte de visite à l'ordre ou dans la salle des avocats.
Et qu'en est-il des règles à respecter entre confrères en salle d'audience ?
La première règle à respecter entre confrères dans une salle d'audience, celle qu'on voit le plus souvent outre de se présenter, c'est l'ordre de plaidoirie. Tout le monde est pressé, tout le monde veut rentrer à son cabinet, tout le monde a quelque chose à faire. Ainsi, les premiers à plaider sont les avocats qui ont un dossier avec un détenu ou un traducteur, car bien entendu, les finances de la justice et de l'État sont prioritaires sur tous les usages. Il faut libérer les forces de l'ordre et il faut libérer les traducteurs. Viennent ensuite les avocats assurant la permanence pénale afin de pouvoir être disponibles pour retourner en permanence. Encore une fois, le temps des policiers est bien plus précieux que celui des avocats. Puis les avocats extérieurs en fonction de leur éloignement. Il arrive parfois que des avocats se battent à coups de plomb sur le téléphone pour justifier de leur éloignement et pouvoir ainsi plaider le plus vite possible. Viennent ensuite les avocats locaux par ordre du tableau, c'est-à-dire par date de prestation de serment, priorité ou plus ancien. Et bien entendu, le bâtonnier plaidant quand il peut, il est par nature prioritaire sur tout le monde. Ainsi, un jeune avocat venant tout juste de prêter serment se retrouvera le plus souvent bon dernier à plaider, sauf à ce qu'il soit opposé à un autre confrère bénéficiant d'un meilleur rang entre guillemets. Mais heureusement, la plupart du temps, ces usages relativement codifiés connaissent aussi des assouplissements. L'organisation de l'ordre des plaidoiries étant laissée le plus souvent aux avocats, l'avocate enceinte n'aura heureusement pas à attendre trop longtemps, de même que le confrère ayant un impératif familial exceptionnel. On arrive toujours à trouver un arrangement et à ne pas laisser l'avocate enceinte tendre toute la journée.
Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les règles de la foi du palais ?
Déjà, la foi du palais, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent du off pour les journalistes. C'est la possibilité d'échanger librement entre acteurs judiciaires, d'évoquer des dossiers entre confrères pour chercher un conseil, voir avec un magistrat quel serait le bon angle pour un dossier, faire le point sur une plainte lorsqu'on croise au hasard d'un couloir un procureur. C'est toute cette huile indispensable au rouage de la machine judiciaire qui la rend plus humaine. La foi du palais n'est pas expressément prévue par les textes. Elle n'est pas protégée au titre du secret des correspondances ou du secret professionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pu, ces dernières années, être remise en cause. Mais il n'est pas bon pour un avocat de trahir la foi du palais, car il perd alors la confiance de ses confrères et des autres acteurs judiciaires, au premier rang desquels les magistrats.
Passons aux relations entre avocats dans le cadre d'un dossier. Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'échange de conclusions ?
Il appartient aux avocats de matérialiser dans leurs nouvelles conclusions les ajouts et modifications au précédent jeu de conclusion. La plupart du temps, il s'agit simplement d'un trait en marge des paragraphes qui ont été soit ajoutés, soit modifiés. Il s'agit encore une fois de la matérialisation de la confraternité, l'avocat recevant un nouveau jeu de conclusion n'ayant alors besoin que de prendre connaissance des nouveautés afin de décider si une réponse s'avère nécessaire. Sur un contentieux technique avec des conclusions faisant plusieurs dizaines de pages, l'ajout ne concernera parfois que quelques paragraphes qu'il serait sinon fastidieux et long à identifier.
Et en matière de secret entre avocats ?
La confidentialité des échanges entre avocats est absolue et c'est la règle. Un courrier confidentiel entre avocats est réputé ne pas exister et ne peut en aucun cas être déconfidentialisé, contrairement à ce qu'espèrent encore certains confrères. Seuls existent aux yeux du public les correspondances portant la mention « officielle ». Mais de tels courriers doivent demeurer l'exception et ne concerner en théorie que les actes de procédure, transmission de conclusions, de pièces, ou la matérialisation d'un accord intervenu entre avocats au terme de négociations confidentielles. Il arrive de plus en plus fréquemment, malheureusement, que les confrères usent et abusent, notamment dans certaines matières, du courrier officiel afin de se préconstituer des preuves dans un dossier. Il s'agit toutefois d'un détournement auquel il apparaît nécessaire de résister. Envoyer un courrier officiel parce que son adversaire avait 10 minutes de retard pour déposer l'enfant de sa cliente, c'est pas une solution. Il est important de noter que c'est la confidentialité des échanges entre avocats qui permet de négocier, de faire des propositions, de reconnaître parfois les torts partiels de son client et d'avancer au final vers une solution. En sachant qu'à défaut d'accord, ces échanges ne pourront en aucun cas être utilisés. Donc on peut négocier en toute transparence. Il convient toutefois de ne jamais dépasser la limite. Ainsi, en cas d'abus de cette confidentialité, c'est-à-dire si un avocat soutient dans un écrit officiel ce qu'il sait être contraire à la réalité des faits couverts par la confidentialité des échanges, il manque à son devoir de loyauté. Il est dès lors possible de saisir le bâtonnier de celui-ci afin qu'il enjoigne au confrère indélicat de respecter son devoir de loyauté en modifiant son argumentation, en retirant des pièces et ainsi de suite. Donc sur une faute déontologique, mais on ne pourra en aucun cas déconfidentialiser un échange pour, au tribunal, justifier effectivement de la déloyauté du confrère.
Quelles sont les règles en cas de succession dans un dossier ?
L'article 9 du règlement international est clair. L'avocat qui se voit confier un dossier en succession d'un autre doit écrire au confrère pour l'informer de sa succession dans le dossier et lui demander si des honoraires resteraient dus. Le rôle de l'avocat s'arrête là. Il ne peut avoir pour mission de recouvrer des sommes ou même de chercher la responsabilité du confrère l'ayant précédé. Toutefois, il conviendra d'être d'autant plus prudent avec un client qui n'aurait pas réglé un confrère afin d'éviter de se retrouver soi-même avec des factures à payer. Une seule solution, la provision. Le confrère débarqué d'un dossier n'a d'autre choix, lui, que de transmettre l'intégralité du dossier à première demande, sauf les correspondances échangées avec le client. Il lui est fortement recommandé toutefois de conserver une copie du dossier afin de pouvoir assurer sa défense si sa responsabilité devait être recherchée.
Comment les choses se déroulent-elles lorsque l'avocat doit faire appel à un postulant ou à un correspondant ? Et déjà, comment le trouver ?
Un avocat va le plus souvent trouver un correspondant ou un postulant parmi son réseau de confrères, soit directement, soit sur recommandation d'un membre de ce réseau. Ce réseau se construit tout au long de la carrière de l'avocat, depuis l'entrée en fac de droit et encore plus à l'école d'avocat. Les syndicats tels que la FNUJA sont généralement de très bons pourvoyeurs de correspondants et de postulants. Le congrès de la FNUJA qui a lieu tous les ans lors du week-end de l'Ascension et dont la prochaine itération aura lieu à Aix-en-Provence est l'occasion notamment de rencontrer des confrères de toute la France lors de formations, de travaux sur l'avenir de la profession ainsi que lors de moments festifs. Il existe également différents groupes d'entraide, notamment sur les réseaux sociaux. Enfin, quelques applications ont tenté de faire les intermédiaires entre les postulants et les dominus litis avec plus ou moins de succès.
Comment gérer la relation et les honoraires ?
Quand on est correspondant au postulant, il est important dès le début de convenir avec son dominus litis, le confrère qui est maître du dossier, du montant des honoraires et de l'étendue de sa mission, comme avec n'importe quel client. Si le client est tenu de régler les honoraires du postulant ou du correspondant, le dominus litis, lui, est dû croire et doit donc personnellement régler en cas de défaut de paiement du client. À défaut de règlement volontaire du confrère, il conviendra d'user de la procédure applicable au conflit entre avocats.
Justement, en cas de conflit entre avocats, quelle est la procédure à suivre ?
Les conflits entre avocats n'existent pas, voyons. Tout le monde s'entend bien dans cette profession, nous sommes tous confrères et tout va bien. Malheureusement, dans la réalité, il y en a quand même quelques-uns. Les conflits entre avocats sont en priorité réglés devant le bâtonnier. Il lui appartient de chercher une solution avec les confrères, dans l'intérêt souvent de l'image de la profession. Rien de pire que deux avocats qui se chicanent devant un notaire ou devant un client. Si les avocats en conflit ne sont pas du même barreau, le plus diligent des avocats saisira son bâtonnier qui prendra alors attache avec le bâtonnier du confrère afin ensemble de trouver une solution. Si aucune solution ne se dégage, les bâtonniers peuvent faire appel à un troisième bâtonnier neutre afin au besoin de trancher le litige. De ce qu'on m'a raconté différents bâtonniers, les conflits relèvent le plus souvent de petites incivilités, d'infractions mineures à notre déontologie et la situation trouve souvent une issue rapide. Il arrive malheureusement parfois que les manquements soient plus graves et que seule une procédure disciplinaire puisse trancher une situation ou sanctionner le comportement fautif du confrère. La plupart des conflits entre avocats trouvent une solution au niveau du bâtonnier, mais il arrive parfois que les faits reprochés soient suffisamment graves pour motiver une procédure disciplinaire, qu'elle soit devant le conseil régional de discipline ou le conseil de l'ordre, notamment pour Paris.
Les boucles WhatsApp et les groupes Facebook sont très en vogue au sein de la profession d'avocat, mais peut-on s'y lâcher complètement ?
Alors malheureusement non, ou plutôt heureusement non. Quel que soit le lieu, l'avocat doit toujours respecter les principes essentiels de la profession, dont la courtoisie et la confraternité. Il arrive malheureusement parfois que des confrères dérapent et se montrent virulents, voire insultants envers d'autres avocats, que ce soit dans des groupes plus ou moins grands sur les réseaux sociaux ou dans des boucles de conversation plus restreintes. De tels propos peuvent alors donner lieu à une convocation par son bâtonnier, voire à une procédure disciplinaire. Il convient bien entendu de rappeler que le pseudonymat, qui parfois fait croire à tort que l'on est anonyme sur Internet, n'atténue en rien les obligations des confrères.
Voilà les règles de la confraternité rappelées. Il n'y a donc plus de raison maintenant de ne pas avoir de relations apaisées entre confrères. Merci Adrien Chouamier.
Merci Laurence.
À bientôt pour un nouvel épisode du podcast du jeune avocat.